Avoir château dans le Lot. Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs. Pour cette balade des châteaux dans le Lot, donc l'émission Avoir château dans le Lot, aujourd'hui c'est le château de Mercuès. Et je suis en compagnie de Bertrand Gabriel Vigouroux. Bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Présence.
Alors, je suis absolument ravie. Vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Bonjour Marie-Madeleine qui nous suit sur toutes les émissions et qui est un apport précieux.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, Bertrand Gabriel Vigouroux, le château de Mercuès, j'ai envie de dire c'est The Château. Quand je dis The Château, c'est parce que on le voit de très loin et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce beau château Mercuès. Mercuès aussi, il y a aussi une consonance historique. Ce château de Mercuès, il vient d'où? Il date de quelle époque? Comment a-t-il été construit?
Écoutez, le château de Mercuès, c'est d'abord une très longue histoire. C'est d'abord un castrum dont on a trouvé quelques traces dès l'époque de Saint-Didier au VIe siècle. Mais les premières écritures sur l'existence du château datent du XIIIe siècle, où les évêques de Cahors avaient décidé de bâtir une résidence d'été, mais aussi une résidence pour l'hospitalité, accueillir les grands du monde de l'époque, les recevoir certainement pour négocier, parce que vous savez que les évêques de Cahors avaient un statut très particulier, ils avaient le statut de comte. Donc ils avaient évidemment le pouvoir de la religion et le pouvoir du royaume, puisqu'ils étaient comptés. D'ailleurs, dans les armoiries que l'on retrouve au château de Mercuès, mais que l'on retrouve aussi à la préfecture qui était la résidence des évêques à Cahors, on retrouve ces armoiries avec la mire des évêques et sa crosse, mais aussi la couronne du roi. Donc les évêques avaient ce statut particulier et ont construit le château de Mercuès pour l'hospitalité. Et ça n'a jamais cessé. Ce lieu a été un lieu d'hospitalité et même quand il est passé dans la sphère privée, il est resté un lieu d'hospitalité.
Et est-ce que les évêques ont toujours habité le château l'été du moins?
Alors, il y a des évêques qui l'ont effectivement habité, plus ou moins. L'un des plus célèbres d'entre eux est Alain de Solmignac, qui a été aussi canonisé par Jean-Paul II au début des années 80, et qui l'a habité, si je ne me trompe pas, au XVIIe. Et donc, lui, il y est resté un certain temps. Hein, je crois qu'il y est resté 50 ou 60 ans. Donc oui, certains évêques y ont passé du temps, d'autres ont eu une vie peut-être plus courte, d'évêques en tout cas, et ont passé moins de temps. Mais dans la chapelle du château, on va avoir le nom inscrit de ces 80 évêques qui sont passés dans ce château.
Mais je pense que dans la vallée du Lot, il y a quelques châteaux qui ont appartenu aussi aux évêques de Cahors, peut-être certains châteaux, certains petits fiefs qui ont aussi dû faire partie de tout ce qui composait le bâti des évêques. Et donc le château de Mercuès, donc 13e siècle, castrum, comme vous disiez, quelle a été l'évolution ensuite?
Alors c'est un château qui, comme ses grandes bâtisses, ont été bâties avec l'œuvre de l'homme, certes, mais avec le temps aussi, puisque chaque siècle, chaque évêque a apporté un petit peu sa pierre à l'édifice, et à rajouter parfois une aile, parfois une tour, parfois...
Voilà, donc il y a plusieurs... on va pas dire que tout date du XIIIe, il y a plusieurs époques.
Le château sa structure actuelle n'est pas globalement du château, et on peut peut même évoquer le chai qui a été construit au XXe siècle, qui est une pièce majeure dans l'établissement et qui est une pièce du XXe siècle. Donc chaque époque a apporté un petit peu quelque chose de nouveau dans le château.
Oui, Marie-Madeleine,
de loin, on dirait quand même une forteresse.
C'est une forteresse, c'est un château fort.
Oui, oui.
C'est un château fort. Et c'est ce qui plaît beaucoup aux gens qui viennent sur place. J'avais un grand client japonais qui est venu avant la crise du Covid et qui s'est exclamé devant le château, un vrai château. Là, c'est un vrai château. Et c'est vrai que c'est pas un château en carton-pâte, c'est pas les châteaux comme il y en a eu beaucoup après au 16e, 17e, 18e siècle, des belles constructions. Donc c'est un vrai château ancien et le 12e, 13e siècle, c'est l'époque où les bâtisseurs ont commencé à bâtir les cathédrales, ont commencé à bâtir surtout avec de la pierre, beaucoup de bâtiments qui sont antérieurs au 12e siècle. Étaient autrefois en bois et ont disparu forcément puisque le bois n'a pas la durée de vie que de la pierre et donc c'est un tout premier bâtiment et ça me fait penser à quelques clients américains qui sont venus dans ce château et qui m'ont dit mais vous rendez compte ce soir je vais dormir dans un château qui est plus vieux que mon pays, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Donc, ça ne laisse pas insensible cette longue histoire de château.
Oui. Alors donc, pardon, Marie-Madeleine, vous vouliez poser votre question.
Ça devait être une expédition pour l'évêque de Cahors à aller à Mercues. Parce qu'il y a 5 kilomètres entre les deux
lieux. Oui, 5-6 kilomètres entre les deux lieux.
Mais on imagine le cortège que ça devait être quand l'évêque se déplaçait à Mercues.
Oui, j'imagine que ça devait être toute une expédition pour partir au printemps, rejoindre cette forteresse.
Mais d'ailleurs, vous parliez d'Alain de Solmignac. Effectivement, il explique dans ses trajets il explique toute cette expédition pour aller d'un endroit à un autre, d'une paroisse à une autre, quand il a fait son tour des paroisses comme tous les évêques. Alors, merci Marie-Madeleine d'avoir posé cette question. Donc, il y a eu les évêques, mais je pense qu'il y a eu d'autres familles importantes autour de ce château de Mercues. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
L'épopée des évêques a duré jusqu'à la séparation des biens de l'Église et de l'État. En 1905, l'État a récupéré le château. C'était pas sans avoir quelques frictions avec les évêques. Ils voulaient pas laisser partir ce patrimoine dans les mains de l'État. Donc ça a pris un peu de temps dans la procédure, mais l'État l'a quand même récupéré et l'a revendu en juillet 1914, c'est-à-dire quelques jours avant la guerre, à un dénommé Monsieur Faure, qui était professeur de médecine à Paris et qui en a fait sa résidence. Il a légué ensuite ce château à ses deux filles, qui, elles, ont commencé à lui donner une vocation d'auberge, de lieu d'hospitalité, pour recevoir des premiers clients. Et après la guerre de 40, le château a été revendu, et il a été vendu donc à Georges Hereille. Georges Hereille est un nom qui reste dans les mémoires, surtout de ceux qui connaissent l'aéronautique, puisque c'est un petit peu le père d'Airbus aujourd'hui. Ouais. Ça a été le bras droit de Général de Gaulle pour lancer le plan de l'aéronautique à Toulouse, en France. C'est le père de la Caravelle. C'est lui qui a lancé la construction et le développement de ce premier avion. Et ensuite, il a quitté l'aéronautique sur un différend avec le général, notamment pour le Concorde, dans lequel l'industriel qu'il était voyait un gouffre financier et l'homme politique, un geste politique, évidemment, de rayonnement international. Et donc Georges Herret est devenu président de Chrysler, d'abord France, ensuite Europe, ensuite Monde. Ça a été l'un des grands patrons des années 60, et il est resté propriétaire du château jusqu'à sa mort en 1979.
D'accord, ouais. D'accord. Et alors à la suite de Monsieur Herret, ce château a été revendu.
Donc ce château, les héritiers de Georges Herret n'ont pas porté le projet du château et le château a fait faillite.
D'accord.
Donc il est resté à vendre pendant quelques années. Mmh. Mon père s'était intéressé à ce château-là puisque il appréciait le Lot, il aimait beaucoup les bâtis, la pierre, et il voyait ce château s'abîmer et qui ne trouvait pas preneur entre 1979 et puis le début des années 80. Donc il a commencé à s'y intéresser et il s'est décidé à le racheter dans l'année 1983 pour conclure un achat fin 1983.
D'accord. Et donc là, vous parliez d'hospitalité pour ce château. Et donc, il continue à être dans l'hospitalité puisqu'il est devenu un des grands châteaux, relais châteaux de France et dans le Lot.
Voilà, tout à fait. C'est un des tout premiers relais châteaux puisque Georges Herret l'a fait rentrer dans la chaîne des relais châteaux. Dès la création de la chaîne, la chaîne s'appelait dans un premier temps la route du bonheur ensuite est devenue par fusion de différentes associations qui développaient les prémices du tourisme moderne est devenue Relais Château et donc le château a fait la couverture du guide pendant quelques années. J'ai encore des clients qui sont arrivés avec des guides des années 60 avec le château en couverture. Il faisait la couverture tellement qu'il était l'emblème du château hôtel. D'ailleurs, les premiers logos des relais châteaux, c'était le logo du château de Mercure.
Ah.
Donc il est rentré dans la chaîne des relais châteaux en 1959.
Ah oui.
Voilà, donc il y a quelques années de cela et aujourd'hui il fait partie des quelques relais châteaux historiques de la chaîne qui ont plus de 60 ans de vie associative dans cette magnifique chaîne.
D'accord. Marie-Madeleine,
alors, c'est votre père, Georges Rigouroux, qui a aménagé cette grande terrasse dans laquelle on arrive et qui donne sur le Lot.
Alors, pas tout à fait. Non, le perron du château a été
existait déjà du temps de Monsieur Herret.
Existait du temps de Monsieur Herret, a existé. Et les terrasses ont été, si mes souvenirs sont bons, l'évêque qui a précédé Alain de Solmignac. Donc au XVIIe siècle. Donc c'est voilà, Alain de Solmignac n'a pas fait de gros travaux dans le château. Hein, il y a habité, il l'a utilisé, mais sa vocation était plutôt à s'occuper des citoyens que de restaurer cette bâtisse. Donc Alain de Solmignac n'a pas fait beaucoup de travaux dans le château, mais ses prédécesseurs en avaient fait. Alors c'est peut-être aussi qu'il était en bon état ce château, qu'il n'avait pas besoin d'en faire. Mais en tout cas, la terrasse date du 16e
siècle.
Alors vous parlez de relais château. Qu'est-ce que ça implique? Je vous pose une question parce que je suis ignorante en la matière et je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Quand vous parlez de relais château, qu'est-ce que ça implique par rapport à l'État? Il y a une demande particulière?
Alors, la chaîne est avant tout un commande d'hôtelier qui est partie d'une idée très française. Donc, c'est une chaîne qui a un ADN français très, très marqué, même si c'est devenu une chaîne internationale, puisqu'on compte 540 membres dans le monde aujourd'hui et 140 membres en France. Donc c'est devenu une chaîne hôtelière, je ne dis pas de luxe, mais de très haut niveau, et qui est la première en la matière au niveau mondial. Et cette chaîne donc regroupe des hôteliers indépendants, propriétaires d'une bâtisse qui a un lien évidemment avec le patrimoine bâti de son territoire.
D'accord.
Et qui s'inscrit dans une charte souhaite défendre un certain nombre de valeurs, et notamment les valeurs de la diversité. Dans le monde, il y a des belles choses partout dans le monde, il faut le savoir. Nous en avons beaucoup dans le Lot et nous en sommes évidemment très fiers. Mais il y a aussi des très belles choses aux quatre coins du monde. Et plutôt que de se faire avaler par les standards de la mondialisation avec des formats d'architecture très uniformes que l'on pourrait retrouver dans des chaînes classiques par ailleurs, Relais Château est tout l'inverse. On va cultiver la différence, la précision, la spécificité de chaque région. Donc la chaîne est très sensible quand un bâtiment de cette nature qu'est le château de Mercues peut se transformer en hôtel et accueillir des clients qui recherchent ces moments d'expérience et qui sont tout à fait exceptionnels. C'est un lieu où on est apaisé, c'est un lieu où on se sent bien, où la dimension des pièces étant peut-être réalisée par des gens qui n'avaient pas d'ordinateur mais qui avaient quand même le sens de l'architecture. C'est un lieu tout à fait magique où on se sent très bien. Et le général de Gaulle, qui a séjourné, qui a écrit une partie de ses mémoires, donc en 1954 au château de Mercues, avait écrit que d'ici on sent monter l'histoire. Et c'est vrai que on sent le poids de l'histoire dans ce château. On sent qu'il y a eu du vécu, et c'est ce qui fait toute l'expérience unique et exceptionnelle. Quand on vient dans cette maison.
Donc vous parliez tout à l'heure avec Marie-Madeleine de cette magnifique terrasse. C'est vrai, quand on arrive, c'est grandiose. Voilà, on a l'impression de c'est du beau. Enfin voilà, on est happé par cette majesté. Et il y a dans le château quelques grandes pièces, comme vous disiez, ce qui permet aussi peut-être pour ces grandes pièces, etc., de pouvoir aussi les entretenir, parce qu'un château à entretenir, c'est pas forcément évident à la journée, je vais pas dire à la journée, mais à l'année.
C'est une charge, effectivement, c'est une charge. On vit notre vie de propriétaire comme étant plutôt un privilège d'un conservateur qui est là pour entretenir ce patrimoine, le temps d'une génération, d'une vie. Et donc effectivement, il y a des pièces qui sont tout à fait symboliques, hein. Il y a la chambre de l'évêque.
Voilà, c'est ça. Je voulais arriver à cette fameuse chambre de l'évêque, voilà. Monsieur Vigouroux.
Donc c'est une chambre qui fait presque 60 mètres carrés, elle toute seule, donc elle n'est pas petite. Hein, elle a toujours son lit en bois doré. Et elle a la particularité très singulière d'avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a un cadran solaire gravé dans le parquet. Voilà, en bronze. Et donc les évêques pouvaient lire l'heure avec les signes du zodiaque d'ailleurs sur le parquet de la chambre.
Quand ils se levaient l'été. Voilà, parce que l'hiver, le cadran solaire, il ne devait pas servir à grand chose.
Donc vous avez cette chambre qui est tout à fait remarquable, qui a vu passer évidemment beaucoup de grands hommes dans cet endroit. Et puis il y avait une autre chambre qui est différente, qui a moins la charge historique, mais qui est très appréciée. C'est la chambre de la tour. C'est dans la chambre 19 exactement. Et cette chambre est tout à fait en haut de la plus haute tour du château. Et elle a une particularité, c'est que en pied de lit, on a un petit bouton qui permet de lever le plafond de la chambre et d'admirer toute la voûte de la tour. Et donc cette chambre est très célèbre. Mm-hmm. Et souvent les Américains appellent en disant je veux la chambre de la tour, hein, et font bien. Le détour au château de Mercuès pour pouvoir dormir dans cette chambre qui est ronde,
oui, oui.
Qui possède un lit rond et qui a ce plafond qui se lève sur une charpente magnifique.
Voilà, c'est sur la charpente. On n'a voilà. pas vu sur le ciel étoilé.
Non, 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 non. Voilà. On a vu sur la charpente de la tour.
Ah, c'est magnifique.
Alors, enfin, date de quand cette charpente
Ça, c'est les tours du château qui font partie du corps de logis et qui sont les premières bâtisses du château.
Du XIIIe siècle.
Alors, oui. comme il est dit ici, un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, j'en suis espantée. Voilà. Alors, nous avons parlé donc de ces chambres un petit peu particulières, du bâti, de l'histoire. Mais tout à l'heure, vous avez parlé du chai historique. Alors, est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin dans cette explication de chai historique ?
Alors, effectivement, il y a une dernière pièce du château, qui est la cave, qui a été construite en 1986. Donc, c'est une histoire assez extraordinaire, puisque c'était le tout début d'une nouvelle époque viticole. Mm-hmm. Il y avait la montée en puissance des vignobles de France, évidemment, et notamment le vignoble de Bordeaux, mais aussi ça a été le début du développement des vins californiens, des vins partout dans le monde. Et donc, il y a quelques viticulteurs qui ont imaginé que faire du vin, c'était non seulement avoir des outils techniques, mm-hmm. avoir un lieu pour produire un vin, mais c'était un lieu qu'on devait soigner, qu'on devait architecturer et donner de la force dans son à son bâti. Et donc mon père a décidé de faire un chai d'architecte.
D'accord.
En 1986, il avait déjà décidé. C'était une condition sine qua non à l'achat mm-hmm, du château. Mm-hmm. Elle était conditionnée à obtenir un permis de construire pour pouvoir faire un chai. Le but de mon père n'était pas d'être hôtelier. Mm-hmm. Son métier, c'était la vigne et le vin. C'était pas l'hôtellerie. Mais l'histoire a fait qu'il est devenu hôtelier, mm-hmm. Il en a fait son affaire, mais il voulait redonner la vocation viticole au château de Mercuès. D'ailleurs, on a des photos du début du 20e ou la fin du 19e, où on voit toutes les vignes qui étaient sur la colline avant que le village n'envahisse par le bâti tout le pied de la colline. Mais donc le château de Mercuès avait cette vocation viticole, il voulait lui redonner, c'était sa volonté en tant que bâtisseur, entrepreneur pour le vignoble de Cahors, et là il a eu cette idée de construire ce chai d'architecte en même temps que la Fitz Rothschild le faisait à Pauillac pour quasiment les deux premiers chefs d'architectes français. Donc l'un était à Pauillac, l'autre était à Cahors. Et la presse nous a fait une très très belle communication qui a été importante pour le château de Mercuès, parce qu'on était comparé à l'un des premiers plus classés de Bordeaux dans cette période-là. Et ce qui nous a aidé à gagner une belle notoriété pour notre domaine, évidemment, mmh, et j'imagine mmh. que ça a servi aussi à la notoriété de l'appellation Cahors. Et aujourd'hui, ce chai intéresse les bâtiments de France, parce que quand il a été construit, ben, il fallait décider de comment construire ce chai-là dans un bâtiment historique. Donc, mm-hmm. Il y avait un autre message au-delà de l'outil technique qui était nécessaire pour pouvoir vinifier des vins au château de Mercuès. C'était surtout l'idée de créer une pièce construite au XXe siècle dans un bâtiment du XIIIe siècle.
D'accord.
Et là, évidemment, les bâtiments de France pouvaient trouver à redire sur ce genre de sujet, mais on a eu la chance de tomber sur un architecte en chef des bâtiments de France, monsieur Lavedan, qui, et monsieur Lavedan a dit non, mais il faut y aller, il faut essayer de donner une petite vocation économique de manière à continuer à entretenir ce patrimoine plutôt que de l'abandonner comme il était déjà depuis 4 ans où plus rien ne pouvait y être fait parce qu'il n'y avait pas de cadre économique. Et donc c'est des impôts qui auraient permis à chacun d'entre nous de peut-être sauver ou entretenir ce lieu-là. Et donc le fait que ce soit dans le privé et qu'on puisse y coller une activité économique allait permettre au château de traverser au moins une période, peut-être 50 ans, peut-être un siècle, peut-être plus, on verra. Mais en tout cas, c'était bien vu de la part des architectes de comprendre que, ma foi, on pouvait installer un chai très contemporain. On l'a fait tout en béton. C'est 2000 mètres carrés de chai en béton qui ont été construits donc en sous-sol au château de Mercues. Et les bâtiments de France s'en sont servis pendant de nombreuses années comme lieu de rendez-vous de tous les architectes qui font partie de l'équipe des bâtiments de France en France pour montrer comment on pouvait associer une architecture ancienne avec une architecture moderne sans dénaturer ni l'histoire ni le lieu. Et ça a été un exercice extraordinaire, passionnant. Voilà,
ça a occasionné des travaux colossaux.
Ah, c'était des travaux colossaux. Il y a eu plusieurs milliers de mètres cubes de terre qui ont été bougés. C'est un chien en sous-sol, donc il n'a pas du tout dénaturé l'aspect extérieur du château puisqu'il n'est pas visible. On rentre sous le château. Et on peut visiter ce chai pendant tout l'été.
Voilà, tout à fait. Ma question était la suivante. Voilà. Est-ce qu'on peut visiter ce chai?
Ce chai est ouvert à partir du mois de mai, quand on réouvre le château, jusqu'au mois d'octobre.
D'accord, très bien. Et je terminerai par un élément aussi important du château de Mercues, la chapelle. Voilà.
Il y a une chapelle.
Alors cette chapelle est extraordinaire. Elle a été bâtie par Petrus Grimalias, qui a été le dernier évêque à vivre au château de Mercues fin du XIXe siècle.
Pierre Alfred,
voilà. et donc son nom latin c'est Petrus. Voilà. Et Pierre c'est Petrus. Et donc pour faire du vin, vous voyez, il y a un clin d'œil facile.
C'était tout à fait logique.
Est-ce qu'il a récupéré Petrus?
Voilà, on pourrait imaginer un jour peut-être. Mais bon, on va laisser Petrus au Petrus. Nous, c'est le château de Mercues, ça vaut tout autant, je dirais. Donc Grimalias a construit cette chapelle et elle est bâtie donc au premier étage entre deux tours.
Elle est donc en hauteur.
Aujourd'hui elle est au-dessus de la cuisine et elle est bâtie donc entre une tour du XIIIe siècle, une des premières tours du château. Et une deuxième tour qui a été faite à une autre époque, qui a été faite au XVIe siècle.
D'accord.
Voilà, donc il a logé cette chapelle entre ces deux tours. Donc cette chapelle a été construite là. Et donc Georges Herey, quand il a lancé l'hôtellerie haut de gamme, il fallait qu'il trouve un espace pour faire une cuisine. Et il a fait la cuisine du château sous la chapelle. Donc les cuisines sont toujours sous la chapelle aujourd'hui. On a fait des travaux de restauration de cette cuisine il y a maintenant 4 ans, en 2018. Et d'ailleurs, on a trouvé des espaces qu'on n'imaginait pas, des traces d'anciennes cheminées qui devaient être sur cette pièce et remonter sur la tour. C'est un très bel espace. C'est une petite pièce de 30 mètres carrés environ. Donc avec ces vitraux et les noms de ces évêques et leur époque quand ils sont passés au château de Mercœur.
Très très intéressant. Mais cette chapelle n'est pas visible du grand public.
Elle n'est pas visible du grand public. Ça, hein. Les clients peuvent y aller. Les gens qui viennent déjeuner, manger au château de Mercœur ont accès à la chapelle. Mmh. Voilà. Mais c'est pas ouvert au public pour une simple visite.
Est-ce qu'il y a des célébrations dans cette chapelle?
Non, elle est plus consacrée. Ah. Elle n'est plus consacrée, mais parfois il y a des gens qui viennent s'y recueillir. Ouais.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce château de Mercœur, alors que nous connaissons bien sûr de par sa belle cuisine, sa grande cuisine, de par les châteaux, de par les vins que vous vendez et qui sont excellents. Merci de nous avoir reçus pour nous parler de ce magnifique château de Mercœur que nous voyons de très loin, je le dis. Et merci de nous avoir reçus.
Écoutez, très très heureux d'avoir échangé sur ce lieu qui est toujours magique.
Et emblématique, tout à fait. Et majestueux. Merci Bertrand Gabriel, je ne me trompe pas, voilà, Vigourou. Et merci Marie-Madeleine.
Au revoir à tous.
Et au revoir à tous nos auditeurs.
Bonne soirée, merci.
C'était À voir Château dans le Lot. Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Reille.